Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Bezvachim, page 3, Daf Gimel. Bonne écoute et bon limoud.
La Mishnah dit, Yeter Alken, plus que ce que nous avons dit précédemment, Yesh lo shtenashim, si une personne avait deux femmes chez Shmotem Shavot, dont les noms étaient les mêmes, Katav le garesh et Agdola, s'il a écrit un acte de divorce pour divorcer la plus grande, Loi garesh bo et Aktana, il ne pourra pas se servir de cet acte de divorce pour divorcer la plus petite. Et cela, même s'il avait eu l'intention de s'en servir pour la seconde, s'il ne s'en servirait pas pour la première. Finalement, nous pouvons prouver de là, donc, que même s'il a écrit l'acte de divorce sans avoir d'intention particulière, l'acte de divorce sera pas soul. L'agma réfute, Dilma Shani Atam, peut-être que là-bas c'est différent, Dein Tikle Leshem Gerushim Dehaï, où cet acte de divorce a quitté l'anonymat lorsqu'il a eu l'intention qu'il serve à cette femme, donc à la plus grande. C'est pour cela qu'il ne pourra pas s'en servir pour la plus petite. Mais il est possible que s'il n'a pas eu du tout d'intention particulière en écrivant l'acte de divorce, celui-ci pourrait servir pour le premier venu. La Gemara continue, et la Meha, plutôt, c'est de cette autre partie de la Mishnah que nous l'apprenons. La Mishnah continue et dit, Yeter Alken, encore plus que cela. Amar le Lavlar, si une personne dit au scribe, Ktov, écrit un acte de divorce, sans intention particulière, ou le Eze Sherze Garesh, et j'utiliserai cet acte de divorce pour divorcer celle de mes femmes que je désire divorcer, Pasoul le Gareshbo, cet acte de divorce n'est pas valable pour s'en servir comme acte de divorce. Donc, nous voyons clairement que l'acte de divorce est pasoul si le scribe n'a pas eu l'intention de divorcer cette femme en particulier. La Gemara réfute en disant, Dilma Shani Atam, peut-être que là-bas c'est différent, de En Brera, parce que nous ne disons pas qu'il s'avère après coup que dès le départ son intention première était de divorcer cette femme. C'est-à-dire, nous craignons qu'il avait peut-être l'intention de divorcer l'autre femme, puis il a changé d'avis. Il se trouve donc que cet acte de divorce a été écrit en nom d'une autre femme. Mais si le scribe a écrit un acte de divorce sans intention particulière, il peut être utilisé par le premier venu. Et la Meha, plutôt nous l'apprenons de cette autre Mishnah dans Maseret Gittin d'Afkavav. La Mishnah dit, Hakotev Tovse Gittin, celui qui écrit des formulaires d'actes de divorce, Tsarir She'aniach Mekom Aish ou Mekom Aisha, il doit laisser un espace pour écrire le nom de l'homme et le nom de la femme, ou Mekom Ha'edim, et un espace pour la signature des témoins, ou Mekom Azman, et un espace pour la date. Vamar Rav Yehuda Amar Shmuel, Av Tsarir She'aniach, il doit aussi laisser Mekom un espace où on écrira par la suite, Hareat Muteret le Kol Adam, tu seras permise à tout homme par le moyen de cet acte de divorce. Nous voyons donc clairement qu'il est impossible d'écrire un acte de divorce à l'avance, sans intention particulière, pour que le premier venu s'en serve, puisque nous voyons que les données essentielles de l'acte de divorce, comme le nom de l'homme et de la femme, doivent être écrites lorsque le mari se présente devant le scribe. Nous avons fini ici le shiur de Maseret Zvachim Daf Bet. Nous commençons le shiur de Maseret Zvachim Daf Gimel à la 15e ligne du bas de la page. Nous avons vu précédemment une première contradiction posée par Rava et sa réponse. La Gemara dit, Tour à Memilta Charité, Rava a posé une deuxième contradiction. Mi Amar Rav Yehuda Amar Rav, est-ce que Rav Yehuda, au nom de Rav, a dit la chose suivante, Chata Cheshachta Leshem Ola Psula, que si on égorge, donc on sacrifie un korban chatat au nom d'un korban Ola, celui-ci est pas soul comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Par contre, Shachta Leshem Chulin, si on l'a égorgé, donc on l'a sacrifié au nom d'un animal profane qui n'est pas un sacrifice, Kshera, ce korban est kasher, Alma, on peut donc déduire de là le principe suivant, selon lequel Demina Machriba, une pensée concernant quelque chose de la même catégorie, donc un sacrifice, a le pouvoir d'abîmer le sacrifice, Delav Mina Lomachriba. Par contre, une pensée concernant quelque chose qui n'est pas de la même catégorie, par exemple un animal qui n'est pas un sacrifice, n'abîme pas le sacrifice. Veraminhi, on a opposé à ce principe la Mishnah suivante, dans Masechet Gittin Daf Kavdalet, la Mishnah dit Kol haget shenichtav shelo leshem isha pasul. Tout acte de divorce qui n'a pas été écrit au nom de la femme en question n'est pas valable. Ve'afilu leshem avodat kochavim nami pasul. Même si le scribe a eu l'intention de l'écrire au nom d'une goya qui n'est pas concernée par les lois du divorce, quand même l'acte de divorce n'est pas valable. Et cela, nous le déduisons parce que du fait que la Mishnah s'exprime en disant l'acte de divorce qui n'a pas été écrit au nom de cette femme, donc au nom de n'importe quelle femme, même s'il s'agit d'une goya, cet acte de divorce est pasoul. Nous voyons donc que même une pensée concernant quelque chose qui n'est pas de la même catégorie, par exemple une goya qui n'est pas concernée par les actes de divorce, quand même a le pouvoir d'invalider l'acte de divorce. Véchané, Rava a répondu à cette question. Get concernant l'acte de divorce, dal obedet kochavim mine. Même si on fait abstraction de la pensée concernant la goya de cet acte de divorce, havele stama, il se trouve que cet acte de divorce a été écrit sans intention particulière, ou stama pasoul, et un acte de divorce qui est écrit sans intention particulière, c'est-à-dire sans avoir pensé à cette femme en particulier, n'est quand même pas valable, comme nous l'avons vu dans le daf précédent. Par contre, kodashim, concernant les sacrifices, dal chulin minayu, si on fait abstraction de la pensée concernant l'animal qui n'est pas un sacrifice, havele stama, nous nous trouvons en présence d'un sacrifice qui a été sacrifié sans intention particulière, ou stama kshérim, et comme nous l'avons vu dans le daf précédent, un sacrifice qui a été sacrifié sans intention particulière est aussi kasher. Verama milta acharite, Rava a posé une troisième contradiction. Mi amar Rav Yehuda amar Rav, est-ce que Rav Yehuda a dit au nom de Rav la chose suivante? Chatat sheshachta leshem ola psula, un korban chatat qu'on aurait égorgé donc sacrifié au nom d'un korban ola, ce sacrifice est pasoul comme nous l'avons vu dans la Mishnah, tandis que shachta leshem chulin kshera, si on l'a égorgé donc sacrifié au nom d'un animal profane qui n'est pas un sacrifice, ce sacrifice est kasher. Alma, nous pouvons donc déduire de là le principe suivant, selon lequel, demina machriba, que seule une pensée concernant quelque chose de la même catégorie, donc un sacrifice, a le pouvoir d'abîmer le sacrifice, tandis que de lomina, lomachriba, une pensée concernant quelque chose qui n'est pas de la même catégorie, par exemple comme une pensée concernant l'animal profane qui n'est pas un sacrifice, n'a pas le pouvoir d'abîmer le sacrifice. Vatania, pourtant, il a été enseigné dans une braïta concernant les lois de l'impureté. Cette braïta parle en effet des lois de la transmission de l'impureté de l'ustensile en argile. La loi est la suivante. L'ustensile en argile ne devient pas impur par le toucher, si l'impureté l'a touché de l'extérieur, mais seulement lorsque l'impureté se trouve à l'intérieur de cet ustensile, qu'il l'ait touché ou non. L'ustensile devient donc impur, par exemple, lorsqu'un reptile mort se trouve dans l'ustensile, qu'il l'ait touché ou non. Lorsque l'ustensile en argile est impur, il n'a la possibilité de transmettre l'impureté qu'à de la nourriture ou à un liquide, et ce aussi de la même manière, c'est-à-dire non pas par le toucher de l'extérieur, mais si un aliment ou un liquide se trouve à l'intérieur de l'ustensile en argile impur, qu'il l'ait touché ou non, ces aliments deviendront impurs. En la Braïta interprète le pasouk dans Vaïkra Yudalef concernant les lois de l'impureté de l'ustensile en argile. Le pasouk dit, tout ustensile en argile dans lequel est tombé un reptile mort à l'intérieur, toute nourriture ou liquide qui se trouve à l'intérieur deviendra impur, et l'ustensile lui-même, vous devrez le briser, parce qu'il est impossible de le purifier par immersion dans un bain rituel. Alors lorsque le pasouk dit toho à l'intérieur, donc tout ce qui se trouve à l'intérieur de cet ustensile deviendra impur, le pasouk veut préciser par là velo tortoho et non pas ce qui se trouve à l'intérieur de l'intérieur, autrement dit dans un autre ustensile. En effet, puisque l'ustensile impur ne transmet pas l'impureté à un autre ustensile, parce que comme nous l'avons dit précédemment, un ustensile impur ne peut transmettre l'impureté qu'à de la nourriture, finalement il se trouve que la nourriture qui se trouve à l'intérieur de l'ustensile intérieur se trouve en fait dans un espace pur, puisque l'ustensile n'est pas devenu impur. Et cela à condition que les parois de l'ustensile intérieur dépassent les parois de l'ustensile extérieur. Parce que sans cela, nous considérons que tout l'espace de l'ustensile extérieur ne fait qu'un. Par conséquent, la nourriture se trouve à l'intérieur d'un espace impur. En tout cas, l'ustensile intérieur fait écran avec l'impureté. Et cela non seulement si l'ustensile intérieur est en argile, car il est évident que dans ce cas, celui-ci ferait écran puisqu'il est de la même catégorie que l'ustensile extérieur, mais le chidouche du pasouk est que vafilu klishetef matzil, même un ustensile que l'on peut purifier par immersion dans un bain rituel, par exemple comme un ustensile de bois ou de métal, quand même celui-ci fera écran avec l'impureté, et donc les aliments resteront purs, même si dans ce cas, l'ustensile intérieur n'est pas de la même catégorie que l'ustensile extérieur. Nous voyons donc de là que même quelque chose qui n'est pas de la même catégorie a la possibilité d'abîmer ou, comme dans notre cas, faire écran avec l'impureté, contrairement au principe que nous avons vu auparavant. Veshane, et Rava répond là-dessus, Asur Cholin Etzel Kodashim, nous considérons les animaux profanes qui ne sont pas des korbanotes par rapport au sacrifice, Kemechitsa Etzel Tanur, comme un paravent qu'on aurait dressé à l'intérieur d'un four. C'est-à-dire, Ma Mechitsa Etzel Tanur Lome Hanyalah Klal, de la même manière que le paravent dressé dans un four ne sert à rien, c'est-à-dire ne fait pas écran avec l'impureté, comme nous le verrons, puisque justement, ce paravent n'est pas de la même catégorie que le four, qui lui est un ustensile. Af Chulin Etzel Kodashin Lome Hanyale. Aussi, une pensée concernant un animal profane, qui n'est pas un sacrifice, ne servira à rien au moment de l'offrande d'un sacrifice, parce que cet animal profane n'est pas du tout de la même catégorie que le sacrifice. Tandis qu'un ustensile, même s'il n'est pas de la même catégorie, par exemple un ustensile de bois ou de métal, qui n'est pas de la même catégorie que l'ustensile en argile, mais quand même, puisqu'il s'agit d'un ustensile, nous considérons cela comme étant de la même catégorie, par conséquent, ils pourront faire écran avec l'impureté. En détenant, parce qu'il est enseigné dans une Mishnah, dans Maseret Kelim Perekret Mishnah Aleph, concernant l'impureté des fours. La Mishnah dit, Tanur Shechatzetso Benesarim Obeiriot, un four qu'on aurait séparé en deux avec des planches ou avec des tentures, Venimtsa Sheretz Bemakom Echad, et on a découvert un reptile mort dans une des deux parties du four, Hakol Tame, tout ce qui se trouve dans le four sera impur, même ce qui se trouve de l'autre côté des planches ou des tentures. Kaveret Shehi Pruta, une ruche en roseau qui était défoncée ou Pruka Bekash et qui a été rebouchée avec de la paille, cette ruche n'est plus considérée comme étant un ustensile, elle n'est d'ailleurs plus susceptible de devenir impure, au mieux, elle sera considérée comme un mur ou un paravent. Ou Mshulchelet Laviratano, et qui était suspendue à l'intérieur de l'espace du four, Sheret Betocha, s'il y a un reptile mort à l'intérieur de cette ruche, Hatanur Tame, le four devient impur, et cela parce que finalement, le reptile mort se trouve à l'intérieur du four, la ruche ne fait pas écran, puisqu'il ne s'agit pas d'un ustensile. Sheret Batano, si le reptile mort se trouve à l'intérieur du four, Ochlin Shebetocha Temeim, les aliments qui se trouvent à l'intérieur de cette ruche seront impurs, et cela pour la même raison. Rabbi Eliezer Metaher, Rabbi Eliezer purifie les aliments, parce que selon lui, la ruche, ou un paravent dressé à l'intérieur d'un four, fait écran avec l'impureté. Amar Rabbi Eliezer Kalvachomer, nous pouvons tenir un raisonnement a fortiori. Im hitzil bemet hachamur, si le paravent a le pouvoir de faire écran pour éviter que ne se propage l'impureté dégagée par un cadavre humain, bien qu'il s'agisse d'une impureté grave, l'otatil beklicher esakal, est-ce que le paravent n'aura pas le pouvoir de faire écran dans un ustensile en argile, donc pour éviter que ne se propage l'impureté dégagée par un reptile mort dont l'impureté est plus légère? Amroulo, les chachamim lui ont répondu, lo, on ne peut pas tenir ce raisonnement.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Gimel Amud Bet. Parce que Im Hitzil Bemet Chamur, si nous disons que le paravent a le pouvoir d'empêcher que ne se propage l'impureté dégagée par le cadavre humain, Sheken Chalouka Beohalim, parce qu'il est habituel de séparer une tente en deux avec un paravent. C'est-à-dire, lorsque la Torah décrit comment se propage l'impureté dégagée par le cadavre humain, la Torah dit, tout ce qui se trouve à l'intérieur de la tente où se trouve ce cadavre deviendra impur. Donc, tout ce qui se trouve dans la même pièce. Puisqu'il est normal et habituel de séparer une tente en deux avec une tenture ou de séparer une pièce en deux avec un mur, cette séparation sera acceptée et donc empêchera l'impureté de se propager si toutefois cette séparation est totale. Parce qu'avec ce paravent, nous considérons maintenant qu'il y a deux pièces et l'impureté dégagée par le cadavre humain ne se propage que dans la pièce où ce cadavre se trouve. Tatsil bikli cheres hakal, pour nous dire la même chose, donc, que le paravent ou le mur empêche l'impureté dégagée par le reptile mort de se propager à l'intérieur d'un ustensile en argile, dont l'impureté donc est plus légère chez En Chalukim Be'Oalim, alors qu'il n'est pas habituel de séparer des ustensiles en deux avec des paravents ou des murs. C'est-à-dire, autrement dit, puisqu'il n'est pas habituel de séparer un ustensile en argile avec un paravent ou un mur, on ne pourra pas considérer qu'il y a maintenant deux ustensiles. Ce paravent n'empêchera donc pas l'impureté de se propager à l'intérieur de cet ustensile. Donc, selon les Chachamim, nous voyons que ce qui n'est pas de la même catégorie, par exemple, un paravent à l'intérieur d'un ustensile, puisque ce paravent n'est pas de la même catégorie que l'ustensile, n'abîme pas l'ustensile, dans le sens que celui-ci est toujours considéré comme ne faisant qu'un seul. Par conséquent, l'impureté se propagera dans tout cet ustensile. Ainsi aussi, une pensée concernant un animal profane n'abîmera pas le sacrifice. La Gemara demande, Hatinach le Rabbanan. On peut accepter cette réponse selon les Chachamim, les Rabbi Eliezer, Maïkal et Memar, mais selon Rabbi Eliezer, que pourra-t-on dire? Puisque selon Rabbi Eliezer, même un paravent, qui n'est pas de la même catégorie que l'ustensile, a le pouvoir d'abîmer l'ustensile et fait écran avec l'impureté. Puisque c'est ainsi, selon lui, on devrait dire que même une pensée concernant un animal profane devrait abîmer le sacrifice. L'Agma répond, Rabbi Eliezer, Kalvachomer Kamar. Rabbi Eliezer tient un raisonnement a fortiori, comme nous l'avons vu précédemment, et c'est pour cela que selon lui, même un paravent ou un mur pourra faire écran avec l'impureté dans un ustensile en argile. L'Agma demande, Yachi, si c'est ainsi, Hatam Namir Lema Kalvachomer. Là-bas aussi, on n'a qu'à appliquer un raisonnement a fortiori. Si déjà, Kodeshim, Mechalelim, Kodeshim, une pensée concernant des autres sacrifices, ont le pouvoir de profaner des sacrifices et de les rendre pasoul, alors que, comme le précise le Tosfot, si une personne sacrifie un sacrifice sans pensée particulière, mais au départ, avant de l'offrir, il pensait qu'il s'agissait d'un autre sacrifice, celui-ci est quand même kasher. Chulin, Lokol Sheken, une pensée concernant des animaux profanes, n'est-il pas évident qu'ils auront le pouvoir de profaner et de rendre pasoul le sacrifice, puisque comme le précise le Tosfot, nous voyons que si une personne sacrifie un sacrifice en pensant qu'il s'agissait d'un animal profane, il ne pensait donc pas du tout l'offrir en tant que sacrifice, celui-ci est pasoul. Il est donc évident que si une personne, sachant qu'il s'agit d'un sacrifice, l'offre en tant qu'animal profane, que ce sacrifice sera pasoul. Donc pourquoi, selon Rav, ce sacrifice est kasher? L'Agma répond, « Ela tama de Rav, plutôt la raison de Rav, pour laquelle, selon lui, celui qui offre un sacrifice en tant qu'animal profane, celui-ci est kasher, que de Rabbi Lazar, comme l'a enseigné Rabbi Lazar. Dama Rabbi Lazar, Mai tama de Rav, quelle est la raison de Rav? D'où sait-il donc que celui qui offre un sacrifice en tant qu'animal profane, celui-ci est kasher? Il répond, « Il l'apprend du pasouk dans Vaikra Kavbet. » Le pasouk dit, Velo yechalelu et kotche bene Israël, et asher yarimu l'Hashem. Et ils ne profaneront pas les choses sacrées des bene Israël qu'ils prélèveront pour Hashem. De là nous apprenons qu'un étranger qui n'est pas Kohen n'a pas le droit de consommer la Trouma. Mais comme le précise le Tosfot, puisque le pasouk emploie le terme de kotche qui veut dire en fait sacrifice, nous utiliserons ce pasouk pour apprendre aussi autre chose. Et nous l'interpréterons de la manière suivante. Velo yechalelu. Il est impossible de profaner les sacrifices de n'importe quelle manière, c'est-à-dire en ayant une pensée quelconque, mais seulement Eskoche Bene Israël, seulement lorsque le Kohen a une pensée concernant les sacrifices des Bene Israël. Nous apprenons de là donc, Kodeshim Mechalelim Kodeshim, une pensée concernant des sacrifices aura le pouvoir de profaner des sacrifices et de le rendre pasoul, Ve'en Chulin Mechalelim Kodeshim, tandis qu'une pensée concernant un animal profane qui n'est pas un sacrifice, n'aura pas le pouvoir de profaner un sacrifice et de le rendre pasoul. En Agmar demande, Alma atakra afkeh mikal machomer, nous pouvons donc déduire de là que le pasouk vient contrer le raisonnement a fortiori qu'on aurait pu avoir. Hachalami, ici aussi, concernant les paravents dans les ustensiles en argile, l'été toho, on n'a qu'à dire que le terme de toho dans le pasouk concernant l'impureté transmise par les ustensiles en argile, l'afkeh mikal vachomer, n'a qu'à contrer le raisonnement a fortiori, puisque selon la logique, comme nous l'avons dit précédemment, on n'a pas l'habitude de séparer un ustensile avec un paravent ou avec un mur. Finalement, on ne peut pas dire qu'il s'agit ici de deux ustensiles, et ceux qui se trouvent de part et d'autre du paravent peuvent être considérés comme étant dans le même ustensile. Donc, si nous appliquions le raisonnement a fortiori, il se trouve que même ceux qui se trouvent à l'intérieur du même ustensile, quand même, pourraient être purs si celui-ci est séparé par un paravent. On n'aurait donc pas besoin du pasouk de Toho pour nous enseigner que ce qui se trouve à l'intérieur de l'intérieur, donc ce qui se trouve à l'intérieur d'un ustensile qui se trouve, lui, à l'intérieur d'un autre ustensile, reste pur si le reptile mort se trouve dans l'ustensile extérieur. Si la Torah a eu besoin de nous enseigner cela par l'intermédiaire du terme de Toho, forcément, nous pourrons déduire que ne seront purs que les aliments qui se trouvent à l'intérieur d'un autre ustensile, mais pas ceux qui se trouvent derrière un paravent qui sépare un ustensile en deux. L'Agma répond, « Mibaele, Rabbi Eliezer a besoin de ce pasouk de Toho pour nous enseigner que le ochlin shegiblan betit v'ichnissan na'aviratanur, que des aliments qu'on a enveloppés avec du mortier et qu'on a fait rentrer à l'intérieur de l'espace du four où se trouve un reptile mort, que ces aliments deviendront impurs. Salkadata Hamina, on aurait pu penser Ho'il ou Bingia Lomitame, puisque ces aliments ne peuvent pas devenir impurs par contact, puisqu'ils sont entièrement enveloppés de mortier, l'aviro, on n'a qu'à dire aussi qu'ils ne peuvent pas devenir impurs lorsqu'ils se trouvent à l'intérieur d'un ustensile en argile. Kamashmalan, c'est pour cela que le pasouk a besoin de nous préciser, par l'intermédiaire du terme de Toho, que seuls les aliments qui se trouvent à l'intérieur d'un autre ustensile resteront purs, mais ceux qui se trouvent dans le même ustensile, même s'ils sont enveloppés de mortier, ils deviennent impurs. Et cela parce que cette enveloppe de mortier ne fait ni office d'ustensile, ni de paravent. Mais s'il y a effectivement un paravent à l'intérieur d'un ustensile en argile, celui-ci sépare l'ustensile en deux, et ce qui se trouve de l'autre côté de ce paravent restera pur. Selon l'opinion de Rabbi Eliezer, de Rabbanan, et les Chachamim qui, eux, n'appliquent pas le raisonnement a fortiori, c'est parce que Hanach Lotrichekra, on n'a pas besoin de Pasuk pour nous enseigner que des aliments enveloppés de mortier, qui se trouvent à l'intérieur d'un ustensile en argile dans lequel il y a un reptile mort, sont impurs, parce qu'il n'y a aucune raison de penser que cette enveloppe fasse écran avec l'impureté. Forcément donc, le Pasuk vient exclure la possibilité qu'un paravent sépare un ustensile en argile en deux, comme le pense Rabbi Eliezer. En conclusion, ce n'est pas à cause du principe que seul quelque chose de la même catégorie a le pouvoir d'abîmer que lorsque le Kohen a une pensée concernant un animal profane lorsqu'il offre un sacrifice que celui-ci n'est pas pasoul, mais plutôt nous l'apprenons de Psukim comme nous l'avons vu précédemment. Rav Yosef Bar Ami, Rame Shinui Kodesh à Shinui Balim ou Meshane. Rav Yosef Bar Ami a opposé les lois concernant une pensée de changer le nom du sacrifice au moment de l'offrande de celui-ci aux lois concernant une pensée de changer le nom du propriétaire au moment de l'offrande du sacrifice. Et il répond à cette question. Alors la question est la suivante. Mi amar Rav, est-ce que Rav a dit la chose suivante? Chatat sheshartah leshem chatat kshera. Un korban chatat qu'on aurait égorgé, donc sacrifié au nom d'un korban chatat et kasher leshem ola psula. Alors que s'il l'offre au nom d'un korban ola, donc c'est-à-dire en pensant qu'il s'agit d'un korban ola, ce korban est pasoul, alma, nous pouvons donc déduire de là le principe suivant. De lav mina machriba, quelque chose qui n'est pas de la même catégorie a le pouvoir d'abîmer le sacrifice, puisque nous voyons que s'il sacrifie le korban chatat au nom d'un korban ola, ce korban est pasoul, tandis que de mina lo machriba, tandis que quelque chose de la même catégorie n'a pas le pouvoir d'abîmer le sacrifice. En effet, celui qui sacrifie un korban chatat qui a été offert par exemple par une personne qui a transgressé le Shabbat, et il pense au moment de son offrande qu'il s'agit d'un korban chatat qui est offert pour avoir transgressé une autre interdiction, par exemple celle de manger de la graisse interdite, quand même le korban chatat est kasher. Nous voyons donc que quelque chose de la même catégorie n'a pas le pouvoir d'abîmer le sacrifice. Veha amar Rav, pourtant Rav a dit, chatat sheshachta al mi shemuchuyav chatat psula, un korban chatat qu'on aurait égorgé, donc sacrifié, au nom d'une personne qui a l'obligation d'offrir un korban chatat, le korban chatat est pasoul, parce qu'il a changé le nom du propriétaire, Almi Shemchuyav Ola Kshera. Par contre, s'il le sacrifie au nom d'une personne qui n'a pas l'obligation d'offrir un korban khatat, mais qui a uniquement l'obligation d'offrir un korban Ola, le korban khatat est kasher, parce que dans ce cas, nous ne considérons pas qu'il y a eu changement de propriétaire. Alma, nous pouvons donc déduire de là le principe suivant, de barmina machriba, quelque chose de la même catégorie, donc comme une pensée concernant une personne qui a lui l'obligation d'offrir un korban khatat a le pouvoir d'abîmer le sacrifice, de lavmina lo machriba, tandis que quelque chose qui n'est pas de la même catégorie n'a pas le pouvoir d'abîmer le sacrifice. En effet, une pensée concernant une personne qui n'a pas l'obligation d'offrir un korban khatat, mais seulement un korban ola, n'a pas le pouvoir d'abîmer le sacrifice. Ces deux lois donc se contredisent. Umeshane, et il a répondu à cette contradiction. Hatam, là-bas, concernant les lois de celui qui a une pensée de changer le sacrifice. Le pasouk dit dans Vaikra Dalet, Veshachat ota lechatat, Amar Rachamana, la Torah dit, et il l'égorgera, donc il le sacrifiera au nom d'un korban khatat. De là nous apprenons qu'une pensée de changer le sacrifice au moment de l'offrande d'un korban khatat le rendra pasoul. Et cela uniquement s'il pense l'offrir en tant qu'un sacrifice différent. Mais s'il l'offre en tant que korban khatat, mais avec l'intention d'expier un autre péché, ce sacrifice sera kasher parce que vehare khatat leshem khatat nishreta, puisque finalement ce korban khatat a été sacrifié au nom d'un korban khatat. Nous apprenons donc clairement de ce pasouk que seule une pensée concernant un sacrifice qui n'est pas de la même catégorie, donc qui n'est pas un korban khatat, rendra ce sacrifice pasoul. Haha, tandis qu'ici, concernant celui qui a une pensée de changer le nom du propriétaire, Vechiper alav ktiv, le pasouk dit dans Vaikra Dalet, il expira sur lui donc les péchés du propriétaire. Nous déduisons, alav velo al chavero, il expira sur lui et non pas sur son prochain. De là nous apprenons qu'une pensée de changer le propriétaire au moment de l'offrande d'un korban khatat le rendra pasoul. Puisque c'est de ce pasouk que nous le déduisons, nous dirons chavero dumyadide, que son prochain au nom duquel le Kohen a eu l'intention d'offrir ce korban khatat doit lui ressembler en ce point chez Mechuyav Kapara, nous disons selon le bar, Kemoto, qu'il soit dans une situation où il doit avoir une expiation, donc où il a l'obligation d'offrir un korban khatat. Et c'est uniquement dans ce cas que si le Kohen a eu l'intention d'offrir le sacrifice en son nom, que le korban khatat sera pasoul. Mais s'il n'a pas d'obligation d'offrir un sacrifice, mais il a simplement l'obligation d'offrir un korban ola, il n'a donc aucun rapport avec l'obligation d'offrir ce korban khatat, par conséquent, celui-ci ne sera pas pasoul. Donc finalement, ce n'est pas à cause du principe selon lequel c'est uniquement une pensée concernant quelque chose de la même catégorie qui abîme l'offrande du korban khatat, mais plutôt c'est du pasouk que nous avons vu, que nous l'apprenons. Rav Chaviva Rameh Shinui Baalim Atoch Tocho Umeshane. Rav Chaviva oppose les lois concernant une pensée de changer le propriétaire lors de l'offrande d'un korban khatat à l'enseignement de l'intérieur de l'intérieur. C'est l'enseignement que nous avons vu précédemment, duquel nous apprenons que lorsqu'un ustensile se trouve à l'intérieur d'un ustensile en argile, l'ustensile intérieur fera écran avec l'impureté, et donc, si un reptile mort se trouve dans l'ustensile extérieur, la nourriture qui se trouve dans l'ustensile intérieur restera pure. Et il répond à cette contradiction. Alors, la question est la suivante. « Umiyama Rav, est-ce que Rav a dit la chose suivante ?»« Khatat shesharta almi shemukhuyav khatat psula » Un korban khatat qu'il a égorgé, donc qu'on a sacrifié au nom d'une personne qui a l'obligation d'offrir un korban khatat, sera pasoul al-mish mkhuyav olak shera, tandis que si le Kohen a l'intention de l'offrir au nom d'une personne qui a simplement l'obligation d'offrir un korban ola, le korban khatat reste kasher. Alma, nous pouvons donc déduire de là, demina machrivba, que le principe est le suivant. Une pensée concernant quelque chose de la même catégorie, comme dans ce cas d'une autre personne qui a aussi l'obligation d'offrir un korban khatat a le pouvoir d'abîmer l'offrande du korban khatat, tandis que de l'avmina l'omachriba, une pensée concernant une personne qui n'est pas de la même catégorie parce qu'il n'a pas l'obligation d'offrir un korban khatat, n'a pas le pouvoir d'abîmer l'offrande du korban khatat. Ve'atania, pourtant nous avons enseigné dans une braïta qui interprète le pasouk dans Vaikra Yudalev concernant l'impureté des ustensiles en argile. Le pasouk dit, tout ustensile en argile à l'intérieur duquel est tombé l'un des reptiles morts, tout ce qui se trouve à l'intérieur en nourriture ou en liquide deviendra impur et vous briserez l'ustensile lui-même parce qu'il est impossible de le purifier par immersion dans un bain rituel. Alors lorsque le pasouk emploie le terme de tocho pour dire tout ce qui se trouve à l'intérieur sera impur, nous apprenons de là velotor tocho et non pas ce qui se trouve à l'intérieur de l'intérieur, donc non pas ce qui se trouve à l'intérieur d'un autre ustensile qui se trouve à l'intérieur du premier. De là nous apprenons que l'ustensile intérieur fait écran avec l'impureté, et c'est pour cela que la nourriture qui se trouve à l'intérieur de ce second ustensile restera pure. Comme nous l'avons dit précédemment, le pasouk nous enseigne que à filu klishetef matzil, même un ustensile qu'il est possible de purifier par immersion dans un bain rituel comme un ustensile en bois ou en métal, fera écran avec l'impureté. Donc si celui-ci se trouve à l'intérieur d'un ustensile en argile, même si ce n'est pas un ustensile de la même catégorie, quand même, la nourriture qui se trouve à l'intérieur de ce second ustensile restera pure. Nous voyons donc que même quelque chose qui n'est pas de la même catégorie a le pouvoir de couper l'espace de l'ustensile extérieur pour éviter que ne se propage l'impureté. Comme le précise le Tosfot, on ne pourra pas répondre ici qu'un ustensile, même d'une autre matière, est quand même considéré comme étant de la même catégorie, puisque c'est tout de même un ustensile, parce que la personne qui a l'obligation d'offrir un korban, même s'il s'agit d'un autre sacrifice, devrait être aussi considéré comme étant de la même catégorie. Par conséquent, même une pensée concernant une personne qui a l'obligation d'offrir un autre korban devrait avoir le pouvoir d'abîmer le sacrifice. Umeshane, et il répond à cette contradiction de la manière suivante. En fait, ce n'est pas à cause du principe selon lequel même quelque chose qui n'est pas de la même catégorie a le pouvoir d'abîmer, mais plutôt, nous l'apprenons clairement des psukim. En effet, arba'a tocho ktive. Il y a quatre éléments superflus à propos des termes de tocho employés par le pasouk que nous allons interpréter pour déduire les lois de l'impureté de l'ustensile en argile. En effet, le pasouk emploie à deux reprises le terme de tocho. Une fois au début du pasouk, lorsqu'il dit tout ustensile en argile à l'intérieur duquel est tombé un reptile mort, et une deuxième fois lorsque le pasouk poursuit en disant tout ce qui se trouve à l'intérieur de celui-ci deviendra impur. Alors le premier élément c'est toch, le pasouk aurait pu se contenter de dire toch à l'intérieur, puis le pasouk dit tocho à la place de toch, donc il y a un vav supplémentaire, c'est le deuxième élément dans son intérieur, puis une deuxième fois Tocho. Le pasouk aurait pu simplement dire Toch, puis l'ajouter le Vav en plus pour dire Tocho, donc dans son intérieur. Il y a donc quatre éléments que nous allons interpréter. Chad le Goufé, un sera interprété pour la loi que le pasouk veut nous enseigner, que ce qui se trouve à l'intérieur de l'ustensile devient impur, Vechad le Xerashava, et le deuxième sera employé pour une Xerashava, dont le support sera le terme de Tocho, employé une première fois par le pasouk concernant le reptile mort qui est tombé à l'intérieur de l'ustensile en argile et une deuxième fois concernant la nourriture qui se trouvait à l'intérieur de celui-ci. De cette Xera Shava nous apprenons que de la même manière que l'ustensile en argile transmet l'impureté par ce qui se trouve dans son espace même s'il ne l'a pas touché, il reçoit aussi l'impureté du reptile mort même si celui-ci ne l'a pas touché, mais s'il s'est simplement trouvé dans l'espace de cet ustensile. Chad, un autre élément, donc le troisième, nous l'employons pour apprendre Tocho shel ze velo Tocho shel acher. Si le reptile mort se trouve à l'intérieur de celui-ci, donc de l'ustensile en argile, et non pas à l'intérieur d'un autre ustensile, de là nous apprenons que les autres ustensiles en bois ou en métal ne deviennent pas impurs simplement par un reptile mort qui se trouve à l'intérieur de son espace, mais uniquement par contact s'il a été touché par un reptile mort, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Idach, le quatrième élément, nous apprenons, Tocho velo toch Tocho, dans son intérieur et non pas à l'intérieur de son intérieur, donc non pas à l'intérieur d'un autre ustensile qui se trouvait à l'intérieur du premier. Et il est évident que si le deuxième ustensile était un ustensile en argile, il n'y a aucune raison de le rendre impur, puisqu'il s'agit d'un ustensile de la même catégorie. Et on ne peut donc pas considérer que les aliments qui se trouvent à l'intérieur du deuxième ustensile sont à l'intérieur du premier. Il est donc évident qu'ils resteront purs. mais le pasouk vient spécialement nous enseigner que va filou klishetef matzil, même un ustensile qu'il est possible de purifier par immersion dans un bain rituel comme un ustensile en bois ou en métal, aura la possibilité d'éviter que ne se propage l'impureté. Donc ce pasouk vient spécialement nous enseigner que les aliments qui se trouvent à l'intérieur d'un ustensile en métal ou en bois qui se trouvaient à l'intérieur d'un ustensile en argile dans lequel est tombé un reptile mort reste pur, même s'il s'agit d'un ustensile qui n'est pas de la même catégorie. Tandis que concernant le cas de la pensée d'offrir le korban khatat au nom d'une autre personne, il n'y a pas de pasouk pour nous enseigner que si cette deuxième personne est d'une autre catégorie parce qu'elle n'a pas l'obligation d'offrir un korban khatat, quand même le korban khatat sera pasoul. C'est pour cela que nous disons que le korban ne sera pasoul que si la seconde personne en question est de la même catégorie, parce qu'elle a aussi l'obligation d'offrir un korban khatat. Nous avons fini ici le shiur de Masechet Zvachim Dav Gimel.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.